Nous allons entendre Julien Talpin sur le déni des discriminations, comment l'évitement de la question raciale démobilise les quartiers populaires français. Julien Talpin est chargé de recherche en sciences politiques au CNRS et membre du CERAPS à l'université Lille 2. Il travaille sur la participation et le rapport aux politiques dans les quartiers populaires en France et aux États-Unis, et il vient de commencer un projet ANR qui interroge les liens entre l'expérience des discriminations et la mobilisation des classes populaires en Europe et en Amérique du Nord.
Bon, merci pour l'invitation et merci aux organisateurs et notamment à Andrew, d'autant que je suis extrêmement nourri par tout ce qui s'est dit depuis ce matin, puisque moi je ne suis pas spécialiste des questions raciales au départ, mais bien plus des questions de participation politique et de démocratie dans la ville. Mais comme vous allez le voir dans ma présentation, c'est une question qui s'est progressivement imposée à moi par le terrain, d'une certaine façon. Puisque, comme le disait Elsa à l'instant, moi je m'intéresse principalement aux questions de la mobilisation et du rapport aux politiques dans les quartiers populaires en France et aux États-Unis, même si aujourd'hui je présenterai, je m'intéresserai essentiellement au cas français, et j'évoquerai simplement en contrepoint peut-être rapidement les recherches que j'ai pu mener à Los Angeles. Donc ma présentation s'appuie sur une enquête ethnographique que je conduis depuis 3 ans dans la ville de Roubaix, donc dans le nord de la France, pour nos camarades américains, donc, qui est situé près de la frontière belge, en banlieue de Lille. Donc Roubaix, j'y reviendrai, qui est la ville la plus pauvre de France en termes de revenus par habitant. Environ 50% de la population vit sous le seuil de pauvreté, ville de 100 000 habitants environ. Une des villes également où les inégalités de revenus sont les plus importantes en France et où une part significative de la population est membre de groupes minorisés, en particulier de descendants d'Algériens de 2e, 3e et 4e génération. Donc la question qui va m'intéresser cet après-midi, c'est comment le cadre, ou ce qu'on peut appeler le frame ou le master frame, pour reprendre le langage de la sociologie de l'action collective, comment le cadre républicain français, largement colorblind et donc aveugle aux inégalités ethno-raciales et aux discriminations, contribue à la démobilisation politique des quartiers populaires, ou plus précisément, comment ce cadre empêche que des formes de mobilisation dans les quartiers populaires français ne soient plus massives. Car évidemment, les quartiers populaires ne sont pas, on le verra, des déserts politiques, mais les formes de mobilisation et de participation qui s'y déploient demeurent relativement marginales, on le verra. Donc ce que j'essaie de faire ici, c'est de voir la façon dont ce cadre républicain de déni des discriminations raciales influence très concrètement les interactions au niveau local et rend difficile la mobilisation des classes populaires racisées. Donc ma présentation se concentrera principalement sur la façon dont les institutions, certains partis politiques dominants et la très grande majorité des organisations de la société civile se saisissent de la question raciale et des discriminations, ou plus précisément, évitent de se saisir de la question raciale, quand bien même elle semblerait s'imposer à eux dans un certain nombre de situations. Et dans quelle mesure cet évitement de la question raciale les empêche rend très difficile la mobilisation des habitants des quartiers populaires qu'ils cherchent à mobiliser. Donc j'évoquerai tout d'abord 3 initiatives civiques qui se sont déroulées en 2012, qui visaient à mobiliser les classes populaires, et en particulier les abstentionnistes, dans le cadre d'élections nationales. Donc une initiative par un parti politique, l'autre par la municipalité, et la troisième par un collectif d'habitants. Et après, dans un second temps, j'évoquerai à la fin de mon intervention d'autres types d'initiatives civiques et politiques qui prennent pour le coup pleinement en compte la question raciale. Donc c'est des mouvements antiracistes. Et j'essaierai d'expliquer pourquoi ces mouvements qui s'attaquent à la question raciale peinent également très largement à mobiliser les premiers concernés et donc les classes populaires racisées. Parce que ce qui ressort donc de mon enquête, c'est le profond décalage entre le rapport au monde social des classes populaires racisées et la façon dont on essaye de les mobiliser politiquement. En effet, un élément qui se dégage très clairement de mon enquête à Roubaix, c'est la centralité de l'expérience des discriminations dans le rapport au monde social des habitants des quartiers populaires. Centralité donc de l'expérience des discriminations qui revient en fait en permanence dans le discours et les interactions ordinaires des gens que je rencontre sur le terrain. Au fond, comme je le disais tout à l'heure, c'est une question qui s'est en partie imposée à moi, puisque la question des discriminations et même du racisme n'était pas initialement, par exemple, dans mon guide d'entretien. Néanmoins, en permanence, quand bien même je ne posais pas la question, systématiquement, la question de la discrimination raciales, religieuses et territoriales étaient évoquées, mentionnées par les gens que je rencontrais ou en entretien, ou également dans les moments d'observation plus informels que je conduisais. Et donc vraiment, la discrimination apparaît comme sur toutes les lèvres des habitants des quartiers populaires. Discrimination, je le répète, raciale, religieuse et territoriale, les trois étant profondément imbriquées. Et ces discriminations sont à l'origine d'un profond sentiment d'injustice chez une bonne partie de la population. Une sorte de colère rentrée, une rage qui peine, c'est ce que je vais essayer de montrer, à trouver un débouché politique. Et alors que la sociologie de l'action collective a montré que le sentiment d'injustice était bien souvent la première étape dans l'engagement, première étape dans les trajectoires d'engagement et de mobilisation, il semble ici qu'à Roubaix en tout cas, que ce sentiment d'injustice ne se convertisse qu'exceptionnellement en mobilisation. Donc pour comprendre ce paradoxe, ce décalage entre la centralité de l'expérience des discriminations et l'absence de prise en charge politique de cette question, il faut s'intéresser, il me semble, précisément à cette offre politique, civique et associative dans les quartiers populaires, voir comment il s'attelle ou il ne s'attelle pas à cette question. Alors, pour rentrer dans le vif du sujet, je voudrais vous donner quelques éléments de contexte donc, sur la ville de Roubaix, donc, qui habite, comme je le disais, environ 100 000 habitants et qui est marquée par une très mauvaise réputation aussi bien locale que nationale. C'est une ville qui a toujours abrité les classes dangereuses, que ce soit les ouvriers du textile à la fin du XIXe siècle, puis ensuite, même si ça a toujours été un peu imbriqué, les immigrés, d'abord venus d'Europe du Sud, puis d'Afrique du Nord et d'Afrique subsaharienne. Si bien que la ville est régulièrement qualifiée de casbah ou de ville des islamistes au regard de la présence maghrébine, du nombre de mosquées ou de magasins ethniques. Et donc, quand on rajoute la pauvreté, les inégalités, il apparaît clairement que la ville de Roubaix souffre d'une très mauvaise image locale et nationale, faisant souvent la une des médias locaux et nationaux au sujet de la ghettoisation de la France, de l'apartheid ou de l'abandon de la République aux islamistes. Évidemment, je cite des unes de journaux ou des titres donnés par certaines chaînes d'information grand public. Donc, pour ne rien arranger, depuis 2007, Roubaix est aussi régulièrement qualifiée capitale nationale de l'abstention, la non-participation électorale atteignant dans certains quartiers 80%, les quartiers les plus pauvres étant composés très majoritairement de minorités, donc 80% notamment depuis les élections régionales, en l'occurrence, de 2010. Tout ça est évidemment très lié, puisqu'on sait que le revenu et le niveau d'éducation sont très directement corrélés avec la participation politique et sont le premier facteur explicatif des comportements politiques. Néanmoins, refusant la fatalité et en essayant de s'attaquer à ce stigmate civique de la capitale de l'abstention, un certain nombre d'organisations et d'institutions de la société civile ont essayé de s'attaquer à ce problème de la démobilisation civique et politique des milieux populaires. Et donc cette question de la démobilisation électorale et politique des milieux populaires a été constituée comme un problème public, une cause à prendre en charge, ce qui a débouché sur un certain nombre d'initiatives que je vais évoquer à présent. Donc la première expérience concerne l'investissement massif du Parti socialiste dans la technique du porte-à-porte, du canvassing, en 2012 pour mobiliser les quartiers populaires dans le cadre de la campagne des élections présidentielles. Donc là, il y a tout un processus de circulation transnationale, d'ailleurs d'importation depuis les États-Unis vers la France, sur laquelle j'ai travaillé par ailleurs, mais ce n'est pas ce qui nous intéresse aujourd'hui. En tout cas, dans le cadre des élections présidentielles de 2012, les socialistes ont été formés et fortement encouragés à faire du porte-à-porte, important la méthode Obama, qui s'était avérée si efficace en 2008. Et donc, à Roubaix, le Parti socialiste a mené une campagne de porte-à-porte très intensive dans les quartiers pauvres, donc les trois quarts de la ville, où la méthode était censée être la plus efficace. Alors, quel rapport avec nos histoires, vous vous demanderez ? C'est qu'en fait, à l'échelle nationale, l'équipe de chercheurs donc, qui a importé cette méthode américaine du porte-à-porte avait montré que le porte-à-porte n'avait en réalité d'effet que sur les électeurs non blancs, que sur les électeurs donc, français issus de la Caraïbe et d'Afrique. Et ils interprétaient d'ailleurs cette efficacité unique du porte-à-porte sur les minorités par ce qu'ils appelaient un effet de reconnaissance, à savoir le fait que frapper aux portes de ceux qui sont généralement considérés comme des Français de seconde zone, pour reprendre un terme qui revient souvent dans les entretiens, j'y reviendrai. Vous frappez aux portes de ceux qui sont souvent considérés comme des citoyens de seconde zone, incarne une forme de reconnaissance symbolique de leur statut de citoyen qui pourrait venir compenser les variables socio-économiques lourdes qui font que, tendanciellement, ces individus ont moins de probabilité de voter. Et donc, ils avaient des résultats, et c'est ça qui a permis à légitimer scientifiquement le recours au porte-à-porte, qui montrait, méthode expérimentale à l'appui, que le porte-à-porte était efficace essentiellement avec les électeurs non-blancs et pas avec les blancs. Néanmoins, dans la communication, au fond, de ces résultats qui va servir à convaincre le Parti socialiste d'utiliser le porte-à-porte, la question raciale va être complètement laissée de côté. Et on va transformer, au fond, cette question raciale en question sociale, puisque les résultats vont, à l'inverse, insister sur le fait que le porte-à-porte ne serait efficace que sur les habitants des quartiers populaires. Ce qui est intéressant, c'est qu'une fois qu'après on regarde comment effectivement cette campagne de mobilisation de porte-à-porte s'est effectivement passée dans les quartiers populaires et ici dans la ville que j'étudie à Roubaix, effectivement ils se sont concentrés sur les quartiers les plus pauvres, les quartiers populaires, mais bien souvent en évitant assez soigneusement les immeubles qui étaient considérés comme des immeubles d'étrangers ou de minorités. L'argument étant que, notamment celui qui m'avait été donné par le chef de campagne, que cela prendrait trop de temps et qu'au regard de la présence importante, notamment de résidents étrangers, on avait peu de temps, de chance de toucher réellement des électeurs et donc que c'était pas forcément nécessaire de se concentrer sur les minorités, quand bien même initialement c'était censé être les seuls sur lesquels ce type de technique avait des effets. Donc il y a un premier niveau d'évitement au fond de la rencontre avec les minorités qui est mise en œuvre très consciemment par la direction de campagne. Néanmoins, quand bien même on essaye de les éviter, des interactions se sont néanmoins produites pendant la campagne entre le collectif militant et un certain nombre d'habitants issus de minorités. Et ce qui est intéressant, c'est que quand les socialistes entraient en contact avec les minorités, la question des discriminations, là, était très, très fréquemment évoquée par les habitants. Pourtant, les socialistes, qu'ils soient d'ailleurs blancs ou non-blancs, évitaient systématiquement ce cadre racialisé pour leur proposer, à l'inverse, un cadre social ou civique. Ainsi, ils encourageaient régulièrement les gens à aller voter en employant des arguments civiques du type « Voter, c'est important, c'est un droit, on s'est battu pour ça. Faut pas être étonné que vos intérêts ne soient pas pris en compte si vous ne votez pas. » Donc, imposition d'un cadre civique à l'interaction qui avait pourtant initialement démarré sur un autre mode qui était celui de la dénonciation des discriminations. Donc, ce cadre civique était rejeté ou inaudible par bien des gens rencontrés dans la rue ou sur les pas de porte qui, à l'inverse, dénonçaient donc les inégalités et l'injustice qu'ils subissent quotidiennement en contradiction avec l'égalité républicaine française. Pour ne donner qu'un exemple, un jeune habitant rencontré dans la rue a répondu la chose suivante à la question d'un militant, mais pourquoi vous ne votez pas ? Et donc il répond la chose suivante, il dit « Le jour où toi et moi on sera vraiment égaux, toi t'as 30 ans, t'es français, moi je suis arabe, je suis né ici, mais bon, voilà. Quand j'aurai un travail et la même situation que toi, ce jour-là je voterai. C'est une vie gâchée, j'ai 30 ans et je n'ai rien. » Donc voilà sur le décalage, au fond, de cadre qui fait que, quand bien même il y a un travail et une volonté de mobilisation des quartiers populaires dans le cadre de la campagne présidentielle, à bien des égards, le décalage des cadres des uns et des autres rendent ce type d'initiative de mobilisation relativement peu efficace, au final, sur les premiers concernés. Alors je voudrais à présent aborder une autre initiative de mobilisation, qui va permettre de décaler un petit peu le regard qui se passe plus ou moins au même moment, toujours dans la ville de Roubaix, qui s'est traduit par la création d'un collectif qui s'appelle le collectif des mamans de Roubaix contre l'abstention. Donc le collectif, en fait, est créé par une femme d'une cinquantaine d'années, d'origine algérienne, deuxième génération, qui a mobilisé en fait ses réseaux amicaux et familiaux, et donc a principalement mobilisé des mamans maghrébines, quand bien même cela n'était jamais dit comme tel. Donc cette femme, Myriam, se rend compte à quelques mois des élections présidentielles que son fils, qui vient d'avoir 18 ans, et devrait donc voter pour la première fois à cette occasion, ne s'intéresse pas à la politique et ne compte pas à aller voter, ce qui semble lui déplaire, elle qui est à l'inverse une électrice constante, relativement politisée, etc. Donc Myriam commence à parler de cette question avec ses amis, qui semblent rencontrer le même problème, en particulier avec leur fils. Elle décide donc de créer un collectif dont les termes sont intéressants, les mamans de Roubaix contre l'abstention, qui rencontre immédiatement un succès médiatique important, attirant l'attention donc des médias locaux et nationaux. Première action organisée par le collectif, c'est un rassemblement symbolique d'une centaine de personnes sur une des principales places de la ville, avec, bon, pareil, grand raout médiatique, beaucoup de mamans, mais très peu de leurs fils et très peu de jeunes des quartiers populaires qui étaient censés être ceux visés par cette initiative. Et ce qui est intéressant, c'est que le discours du collectif s'est avéré extrêmement différent en public et dans les espaces plus privés. En public et en particulier dans les médias, les mamans soulignaient l'importance de l'acte de vote, utilisant de nouveau un cadre très civique, du devoir civique d'aller voter. À l'inverse, dans les moments plus privés, dans les chuchotements, les discussions de couloir, ou dans les interviews que j'ai pu mener par la suite, c'était la question de la discrimination qui était centrale en réalité. Au fond, toutes les mamans expliquaient la défiance et la dépolitisation de leurs enfants par l'expérience directe de la discrimination que rencontraient leurs fils, notamment sur le marché du travail ou la difficulté à accéder à des stages, ou les contrôles aux faciès de la police, ou discrimination qu'elles subissaient elles-mêmes sur le marché du travail. Myriam, par exemple, est elle-même diplômée Bac plus 4 et au moment de l'entretien au chômage depuis 2 ans. Et donc, un sentiment, comme je le disais en introduction, d'injustice et d'inégalité très fort, comme Myriam me le dit en entretien. En France, quand bien même elle l'est, en France, je ne suis pas française, mais quand je vais à l'étranger, je suis vue comme française. Et donc, elle fait le lien très directement en entretien, ce qu'elle n'a jamais fait publiquement, entre le désintérêt politique de son fils et la discrimination qu'il a connue. Au fond, le déni de citoyenneté, le fait d'être traité quotidiennement sur le marché du travail, dans les interactions scolaires, etc., d'être traité quotidiennement comme un Français de seconde zone, aurait une traduction dans le champ politique de démobilisation et de dépolitisation des Français de deuxième, troisième ou quatrième génération. Néanmoins, la cause profonde, en tout cas à ses yeux, de ces problèmes n'a jamais pu être énoncée publiquement. Et de fait, après quelques semaines de mobilisation, le collectif disparaît, faute de troupes, puisqu'il n'aura jamais réussi à véritablement mobiliser, au-delà de ce premier moment médiatique qui rassemblait une centaine de mamans sur une place. Les jeunes de quartier, en particulier les premiers concernés, ne s'identifiant jamais au cadre civil qui avait été accolé au problème public tel qu'il avait été défini initialement. Et donc l'évaporation de la question raciale des interactions publiques a, une fois de plus, conduit à l'échec, on peut dire, de cette mobilisation. Troisième initiative que je voudrais évoquer, c'est une initiative organisée par la municipalité, toujours à quelques semaines des élections présidentielles. Donc quand je vous disais qu'ils se battent activement contre le stigmate de la ville la plus abstentionniste de France, ils organisent plein de trucs. Et donc la municipalité décide d'organiser à quelques semaines des élections ce qu'ils appellent un Speaker's Corner, un peu sur le modèle de Hyde Park, l'idée en fait d'organiser sur une des places de la ville aussi, de mettre une scène où tout un chacun, et en particulier les jeunes de la ville, pourraient venir s'exprimer, exprimer leurs problèmes, et surtout inciter les autres à aller voter. Et donc chacun pouvait venir prendre la parole. Et un élément qui est assez frappant, c'est que à l'encontre des attentes des organisateurs de l'événement, et à l'encontre de la façon dont l'événement a été relaté par la presse après coup, une fois de plus, selon un cadre très civique, tous les jeunes qui ont pris la parole, qui étaient tous membres de groupes minorisés, n'ont parlé que de la question des discriminations raciales, au fond. Et n'ont quasiment à aucun moment parlé de vote ou des élections, comme si, au fond, l'ouverture d'un espace d'expression publique, pour une fois, leur permettait d'exprimer quelque chose qui est généralement tu ou qui reste dans les interactions plus privées, les chuchotements et les discussions de couloirs. Certains reconnaissant néanmoins que voter ne changerait rien par rapport à leurs problèmes de discrimination liés à l'accès au travail, au stage, etc. Et donc cet événement, me semble-t-il, démontrait une fois de plus le décalage entre ce cadrage civique, institutionnel et médiatique et ce cadrage, au fond, racialisé et la dénonciation des inégalités ethno-raciales, en tout cas, par la population. Alors on pourrait évidemment avancer qu'il n'est pas surprenant que des organisations relativement généralistes, mainstream, du type parti politique ou institution, ne s'attaquent pas directement à la question des discriminations, puisqu'elles visent principalement à s'attaquer à beaucoup d'autres questions, notamment à des questions économiques, sociales, politiques, etc. Néanmoins, il me semble que ces organisations et ces institutions ont à minima la prétention de représenter les habitants de ces quartiers populaires, et on voit bien qu'elles ont du mal, à certains égards, à représenter ce sentiment de discrimination de la population. On pourrait néanmoins rétorquer que des organisations spécialisées, qui auraient une sorte de division du travail politique, que des organisations spécialisées, les organisations antiracistes, sont précisément là pour cela, pour prendre en charge la question des discriminations, de la lutte contre le racisme, etc. Mais ce que je voudrais faire à présent, dans le temps qui me reste, c'est essayer d'expliquer pourquoi ceux qui parlent de discrimination et qui prennent en charge la question raciale dans cette ville peinent très largement à mobiliser les premiers concernés et demeurent des initiatives et des formes de mobilisation extrêmement marginales dans le champ des mouvements sociaux locaux. Et donc je vais essayer d'expliquer les origines de ces difficultés. Alors, en m'intéressant à deux sous-groupes, d'une certaine façon, le premier, et je passe très rapidement, c'est le sous-groupe des mouvements antiracistes classiques ou historiques, dans lesquels on peut inclure SOS Racisme, le MRAP, la LICRA, et d'autres collectifs, en tout cas présents à Roubaix, qui présentent deux difficultés. La première, c'est que c'est des collectifs qui sont, dans cette ville en tout cas, principalement menés par des non-racisés, par des Blancs, qui organisent la mobilisation. Première difficulté. Deuxième difficulté, c'est le type de répertoire d'action qu'il mobilise, qui est un répertoire d'action essentiellement éducatif, qui vise à déconstruire les stéréotypes ethno-raciaux, ce qui est probablement une très bonne chose, mais ne parvient pas, en tout cas, à mobiliser les premiers concernés. Et donc, qui demeure extrêmement invisible au sein de ces organisations historiques classiques. Alors, bon, il y a plein d'autres raisons, et on ne revient pas ici sur l'histoire du mouvement antiraciste en France, mais voilà. Premier champ, qui est celui du mouvement antiraciste classique, à Roubaix, qui est complètement affaissé, qui ne représente quand même plus grand. Deuxième partie, c'est ce qu'on peut appeler le mouvement antiraciste plus radical, d'organisations plus récentes, qui sont nées, en fait, au départ, dans les années 90, de jeunes issus de l'immigration, principalement de la deuxième génération de descendants d'Algériens. Donc ces organisations rassemblent principalement les premiers concernés, des minorités, mais néanmoins peinent également à mobiliser beaucoup plus massivement les quartiers populaires et les minorités pour différentes raisons que je vais essayer d'approfondir. Sur la difficulté donc, de ces organisations qui, quand bien même elles sont portées par des leaders de quartier, quand bien même elles sont portées par des minorités, ne parviennent pas, ou très marginalement, à rencontrer un écho chez ceux qui pourtant passent leur journée à dénoncer les discriminations dont ils sont victimes. Donc plusieurs raisons. La première raison qui me paraît tout à fait importante, c'est, je dirais, le rôle de la répression ou du contrôle d'État sur ces organismes-là. Au fond, il y a tout un ensemble de techniques et de stratégies de la part de l'État et des collectivités locales pour empêcher ce type d'initiative de se développer. La première, la plus fréquente, c'est par les politiques de financement. Le financement est évidemment une question très importante dans le fonctionnement de la vie civique et démocratique en France. Et pour nos collègues américains, donc il faut savoir que les fonds des associations et des collectifs en France sont principalement issus de l'État et des collectivités locales et des villes, qui constituent donc un moyen de contrôle extrêmement fort. Pour ne donner qu'un exemple de la façon dont précisément la stratégie de financement des financeurs peut avoir des conséquences très concrètes sur le développement ou non, et la puissance potentielle, la capacité de mobilisation des organismes et des organisations au niveau local, je ne donnerai qu'un exemple donc, sur ce que me disait assez récemment un fonctionnaire de l'État en entretien, qui me disait qu'un des critères fondamentaux d'attribution des subventions aux associations de quartier est le suivant, c'est communautaire ou non communautaire. Et que la ligne de démarcation est celle-ci, et de savoir si, au fond, l'organisation en question, pour qu'elle soit financée, il faut qu'elle puisse être classée dans ce qu'on qualifiera d'organisation non communautaire. Alors la question derrière, c'est comment définit-on, au sein de l'appareil d'État, ce qui est une organisation communautaire ou non communautaire ? Alors là, je n'ai pas forcément d'éléments extrêmement systématiques, donc je passerai assez vite. Mais l'idée, globalement, c'est que dès que les barbes deviennent un peu trop longues ou qu'on commence à apercevoir quelques voiles dans les associations, il devient difficile d'obtenir des financements publics, c'est en tout cas très clair, à Roubaix. Et donc on sape clairement, sciemment, volontairement les capacités d'action dans les quartiers quand celles-ci sont issues des premiers concernés, comme si, au fond, des Noirs ou des Arabes qui se mobilisaient pour eux-mêmes ne pouvaient le faire que dans des objectifs particularistes, communautaristes. Donc voilà le premier moyen de répression ou de contrôle par l'État de la capacité de mobilisation des quartiers, c'est la politique de financement. Deuxième élément, très classique également, c'est de contraindre les conditions matérielles de la mobilisation. Et là, c'est très concret et très trivial, mais c'est l'obtention d'un local. Une salle pour se réunir est une technique très fréquente utilisée pour empêcher... Voilà, La condition de base pour permettre une mobilisation et pour permettre de développer des capacités d'action, c'est d'avoir des espaces pour que les gens puissent se regrouper et des espaces d'entre-soi, je dirais, qui vont permettre justement l'expression en particulier de la discrimination ethno-raciale. Donc là, moi, j'ai plein d'exemples comme ça de collectifs qui se voient soit à la dernière minute refuser leur salle, soit n'arrivent jamais à avoir de salle pour tel ou tel type d'initiative qu'ils essayent d'organiser. Enfin, dernière technique, bon, c'est une liste qui n'est pas exhaustive, hein, là je passe un peu vite et ma recherche est évidemment toujours en cours. On cherche également à délégitimer l'image des militants. Et là, c'est des choses moi, que je vois assez fréquemment sur le terrain. Donc ça peut être sur des formes de délégitimation symbolique, en qualifiant tel ou tel acteur soit de communautariste, soit d'islamiste, etc., soit en allant un petit peu plus loin, en faisant des procès, en fait. Et un certain nombre de leaders de quartier sont retrouvés, par exemple, en procès pour antisémitisme, en tout cas certains que je suis, et qui ont fini d'ailleurs par gagner leur procès, mais après pas mal d'années de galères administratives et juridiques, et qui a des conséquences très, très concrètes. Pour ne donner qu'un exemple, un de mes principaux enquêtés à Roubaix aurait pu être un des leaders locaux de la lutte contre le racisme et les discriminations. Au fond, il en avait tous les attributs et toutes les compétences, mais il n'a cessé, moi j'ai fait pas mal d'entretiens avec lui pour retracer sa trajectoire, de subir précisément la disqualification symbolique, politique et juridique, puisqu'il a, pour le coup, été accusé lui-même d'antisémitisme et a fini par l'emporter après 5 années de procès, d'appel, etc. Et donc, à force de disqualification, il a fini par être en partie tué symboliquement, si bien qu'il n'est plus véritablement en rôle d'assurer son, en capacité en tout cas d'assurer son rôle de leader, trop cassé par la répression symbolique d'État, ce qui se voit en fait très clairement de par des choses. Moi, dans son excise corporelle, son discours, ses regrets permanents, c'est l'incarnation physique d'une vie militante gâchée ou détruite par des techniques relativement insidieuses de contrôle d'État. Quatrième technique qu'on peut évoquer, qui est également très, 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 très fréquente, c'est les stratégies de cooptation des leaders des quartiers populaires par le champ politique. Donc là, pareil, je ne vais pas rentrer dans le détail, c'est des choses qui sont assez, assez classiques, mais Roubaix est une ville historiquement socialiste, qui a été socialiste jusqu'en 2014, pendant près d'un siècle, et où le Parti socialiste, par son organisation clientéliste assez bien rodée, a réussi à capter de façon assez systématique les leaders qui émergeaient dans la société civile et donc à saper à la base les conditions d'organisation autonome dans les quartiers de la ville. Donc voilà sur un premier ensemble de raisons qui font qu'il est extrêmement difficile de se mobiliser sur ces questions-là, c'est que y a des gens en face, d'une certaine façon, qui font ce qu'ils peuvent pour que ça n'arrive pas. Je n'aurais pas laissé penser pour autant que les difficultés de mobilisation autour des questions raciales en France ne sont dues pour autant qu'à des facteurs exogènes et qu'à la répression ou au contrôle de l'État. Je crois qu'il y a également une agency propre des collectifs militants et des mouvements sociaux sur lesquels je voudrais passer un peu de temps à présent. Je crois qu'une des difficultés pour mobiliser autour des questions raciales, je pense que c'est vrai sur d'autres questions aussi dans les quartiers populaires français aussi, également, une des difficultés pour mobiliser, c'est la culture organisationnelle, les routines associatives et le répertoire d'action de ces organisations antiracistes, y compris antiracistes radicales. Une des difficultés, me semble-t-il, c'est que ces organisations ont recours à des méthodes de mobilisation qui sont bien souvent trop discursives, trop intellectuelles, pour réellement mobiliser les premiers concernés autour de ces questions. Le réflexe, la routine, dans de nombreux milieux militants en France, c'est que quand on veut s'attaquer à un problème, quand on veut faire avancer une cause, on organise une conférence, on organise un débat. Et c'est très bien, c'est bien de discuter d'une certaine façon, mais au fond, en tout cas mon argument, c'est de dire que c'est pas forcément la meilleure façon ou la façon ultime de mobiliser les catégories populaires. Alors une fois de plus, je vais vous donner qu'un seul exemple, c'est une association qui voulait organiser quelque chose à Roubaix, qui est assez rare en fait, donc moi j'étais content de voir cette question mise à l'agenda, sur le rapport des jeunes avec la police et le racisme policier. Donc ils veulent mettre cette question à l'agenda. Qu'est-ce qu'ils font? Ils organisent un débat où ils font venir des victimes de crimes policiers venus de Paris, dans un des quartiers les plus pauvres de Roubaix, dans un local associatif assez pourri, et donc ils organisent un débat autour de ces questions. Donc là, au départ, jusqu'ici, tout va bien. Le problème, c'est que quand on assiste au débat, il n'y avait dans la salle que des militants de gauche venus de Lille, quasiment aucun roubaisien et aucun des jeunes que moi j'interviewais par ailleurs. Si bien que, indépendamment de la volonté tout à fait louable, probablement, de mettre cette question à l'agenda, ce qui est déjà extrêmement rare par rapport à tout ce que je vous ai dit par ailleurs sur l'évitement de ces questions par tout un ensemble d'autres organisations beaucoup plus puissantes et dominantes. Quand bien même on cherche à mettre à l'agenda ces questions, la façon dont on s'y prend pour cela, du fait de routines organisationnelles, de cultures organisationnelles enracinées, ne parvient pas à mobiliser les premiers concernés qui sont assez éloignés de ce genre de choses. Donc ces réflexions sur les cultures organisationnelles et les façons de mobiliser la population en France me sont apparues d'autant plus nettement après avoir passé un séjour de recherche aux États-Unis, où j'ai fait donc une étude de terrain dans les ghettos de Los Angeles sur des formes de community organizing et de mobilisation collective des minorités. Et un des éléments qui m'a frappé à Los Angeles, je suis en train de finir un livre là-dessus, c'est le caractère très peu discursif, en fait, des formes de mobilisation dans les quartiers. Quand on veut mobiliser les gens sur une question, on fait du porte-à-porte, on organise une manifestation, un rassemblement, on organise des actions, on ne fait pas une conférence. Et de fait, quand bien même ces organisations, et on en parlait déjà ce matin, présentent un certain nombre de limites, elles parviennent aussi bien numériquement que qualitativement à mobiliser beaucoup plus massivement les habitants des quartiers populaires, qui sont très largement surreprésentés dans ces organisations, et à mobiliser quasi exclusivement les minorités, rien ne serait-ce que par le type de méthode de mobilisation qu'elles mettent en œuvre. Alors ça ne veut pas dire évidemment qu'il ne faut pas débattre, ou qu'il ne faut pas avoir des espaces de discussion collective dans les mouvements sociaux, mais que probablement elles doivent être articulées à des formes d'action collective beaucoup plus directes, et que également ces moments de discussion et de débat peuvent être organisés de façon peut-être plus participative que de la façon dont est organisée cette conférence, par exemple, aujourd'hui. Alors je ne dis pas évidemment que ce type de choses n'existe pas en France. On entendra d'ailleurs parler tout à l'heure lors de la table ronde, puisque le collectif Sauf le contrôle aux faciès, précisément, est en train d'importer les méthodes de mobilisation du community organizing des États-Unis. Ça reste néanmoins extrêmement rare et extrêmement marginal dans le champ de l'antiracisme ou de la lutte contre les discriminations en France. Donc pour conclure, ce qui ressort de mon enquête à Roubaix, c'est l'incapacité à ce jour des organisations politiques, des associations et des mouvements sociaux à prendre en charge la puissance du sentiment de discrimination des classes populaires aujourd'hui. Et donc le très fort décalage entre le sentiment d'injustice face à l'expérience des discriminations et une offre politique qui est très loin de ces questions. Et il me semble que voilà, face à ce décalage, il y a plusieurs voies. L'une d'entre elles, et je pense que c'est une des façons de l'expliquer, c'est l'émeute. Et l'expression violente d'un sentiment d'injustice, comme on l'a vu en 2005, mais comme on le voit régulièrement dans un certain nombre de quartiers populaires, c'est une des façons dont s'exprime précisément ce décalage et l'incapacité d'avoir un portage politique de cette question-là. C'est aussi la construction de l'identité collective autour de l'islam dans les quartiers populaires, qui vient constituer une identification alternative face au déclin du mouvement ouvrier et face à l'incapacité des organisations politiques et collectives à proposer d'autres formes d'identification, ce qui ne veut pas dire, troisième voie au fond, c'est l'auto-organisation des quartiers populaires qui pourrait tout à fait s'articuler avec des constructions d'identité collective sur des bases religieuses, comme j'ai pu le voir aux États-Unis. Alors, un des enjeux de mes recherches à présent, c'est de mener justement une étude comparée. On vient de lancer un projet à ENR sur ces questions-là, et de voir dans quelle mesure, dans d'autres villes, en fonction de l'histoire politique, sociale de ces villes, ces configurations particulières, l'articulation entre le champ politique et le champ des mouvements sociaux permet ou pas la prise en charge de la question raciale et de la question des discriminations par le mouvement social. Puisque une des difficultés, comme je vous l'ai dit, dans une ville comme Roubaix, c'est le fort contrôle et la cooptation, la captation du mouvement social par le champ politique. Une des questions moi, qui m'intéresse, c'est de voir dans quelle mesure, dans des villes ou des espaces localisés où la société civile est historiquement plus autonome du champ politique, pour tout un ensemble de raisons, si des formes de lutte et des formes de mobilisation peuvent plus facilement s'exprimer, si c'est ça le critère principal, ou s'il y en a d'autres à prendre en compte. Voilà, je vous remercie.